Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui est devenue libre selon sa propre définition grâce au code. Aujourd'hui, je reçois Valériane, développeuse évangéliste chez Twilio France, et cet épisode va très probablement vous intéresser parce que Valériane a un parcours assez atypique et vous allez voir que notre discussion a été très inspirante. Alors, elle a commencé par des études de commerce, donc on pourrait se dire qu'elle n'était pas destinée au monde du code, mais elle a pourtant découvert le développement un peu par hasard et elle a tout de suite été prise par cette nouvelle passion. Alors, elle a tout mis en place pour poursuivre ses rêves, elle a suivi des formations, elle s'est lancée et elle a même créé sa boîte pour travailler en freelance. Mais bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier cette discussion avec Valériane. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant votre avis sur Apple Podcasts. Bonjour Valériane, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ce que je te propose de faire dans un premier temps, comme je fais avec la plupart de mes invités, c'est de te présenter rapidement, comme ça on découvre un peu qui tu es, ce que tu fais en ce moment, et puis ça nous donnera déjà une bonne base pour rebondir dessus.
Ok, bonjour Quentin, merci de m'avoir aujourd'hui. Donc je suis Valériane Venance et je suis développeur évangéliste chez Twilio et plus particulièrement en France.
Ok, top. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'est ce métier de développeur évangéliste? Parce que je pense que c'est des termes que séparément on comprend peut-être, mais c'est vrai que je pense que pour la plupart des gens qui nous écoutent, c'est un métier un peu vague. Donc est-ce que tu pourrais nous décrire un peu c'est quoi ton quotidien? Quelle est ta mission en fait dans ton job?
Ah oui, alors j'ai pas de journée type du tout, mais ma mission ça va être du coup de faire connaître les produits de la société auprès de laquelle je travaille, donc Twilio, auprès des développeurs, puisqu'en fait en tant que développeur évangéliste, on est toujours amené à travailler avec des sociétés qui créent des produits qui sont destinés à être utilisés par les développeurs et développeuses. Donc l'idée ça va être de faire connaître ces produits, mais aussi de s'assurer que l'expérience de dev sur les plateformes ou avec les différents outils qu'on peut mettre à disposition est bonne. Ça va aussi s'assurer que les développeurs aient aussi les bonnes ressources pour pouvoir bien utiliser ces produits et bien comprendre. Donc ça va aussi être de la doc, des articles techniques. Il y a toute une partie présentation également, donc aller parler dans des conférences, ce genre de choses.
Ok. Et par rapport à l'aspect programmation, selon toi, à quelle distance de toi se trouve encore l'aspect technique de la programmation? Est-ce que c'est quelque chose que tu touches encore ou c'est vraiment quelque chose sur lequel tu as pris du recul et tu te places plus comme au-dessus, entre guillemets, en tant que superviseur, en tant qu'angéliste, de tous ces développeurs? Quel est ton rapport avec l'aspect vraiment technique de la programmation?
C'est une question très intéressante parce que justement, on en fait moins que les développeurs au jour le jour, mais c'est quand même nous qui préconisons certaines bonnes pratiques, des nouveaux patterns, ce genre de choses. Donc là où j'en suis moi personnellement, je code moins que ce que j'aimerais, mais après dans tous les cas c'est parce que j'adore ça et que les journées ne sont pas extensibles. Mais donc voilà, je code on va dire un peu, fondamentalement ça doit être à peu près 5% de ce que je fais. Donc on est très loin des 100% à l'époque où j'étais complètement développeuse. Et on va dire qu'aujourd'hui on a plus un aspect... effectivement, genre il y a un peu de recul et on doit beaucoup se tenir informé. En fait, il y a plus de veille, je dirais, pour savoir quelles sont les bonnes pratiques, dans quelle direction ça va, qu'est-ce qui sort, en quoi c'est intéressant. Ce genre de choses, justement, genre par exemple, moi je fais du Ruby. Quand tu as un nouveau framework Rails, enfin quand tu as une nouvelle version du framework Rails qui sort, moi mon rôle ça va être de dire aux développeurs bah waouh, regardez, il y a ça, c'est trop bien et ça s'utilise comme ça. Donc on en fait moins, mais on lit plus, je pense, autour de ça. On écrit plus aussi. Et ouais, on aura un peu plus un rôle de préconisateur, en fait. Ouais, complètement.
Ok. Top. Et donc tu nous en parlais juste un peu avant. Tu as passé une partie de ta carrière où là vraiment c'était 100% du temps de ton temps passé à coder. Alors c'était peut-être pas 100%, mais en tout cas tu as eu une période où là vraiment tu étais dans le technique. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton, enfin comment t'en es arrivé là? Donc peut-être remonter à tes études et nous expliquer un peu ton parcours, par où t'es passé et comment t'en es arrivé à faire ce métier aujourd'hui?
D'accord. Bah, c'est une histoire un petit peu marrante puisque sur le papier, je n'ai qu'un bac pro commerce et aucun autre diplôme. Ouais. Du coup, donc voilà, j'ai obtenu mon bac pro commerce après des études, on va dire, un peu classiques. Voilà. Je suis juste partie en pro assez jeune pour commencer à travailler rapidement. Sauf qu'en fait, à un moment, je me suis retrouvée un peu par hasard et par opportunité à Paris, avec quelqu'un qui faisait la toute première piscine de l'école 42, et donc qui rentrait dans notre colloque le soir et qui me parlait de ce qu'il faisait. Et j'étais là, mais c'est trop bien, ça a l'air super. Attends, montre-moi encore ta petite fenêtre noire là, comment ça s'appelle et tout. Et donc en fait, c'est vraiment comme ça que je suis tombée dedans littéralement. Ça m'a happée, et donc c'est aussi comme ça que j'ai connu 42 et que je me suis retrouvée à faire cette école-là. J'ai passé ma sélection en 2015. Et donc j'ai fait à peu près un an et demi à 42. C'était vraiment super, ça m'a appris à apprendre en fait complètement tout ce qui était du coup lié à comment on devient développeur en presque se formant soi-même. Et c'est vraiment l'enseignement qui me sert le plus aujourd'hui dans tout ce que je fais. Suite à ça, je suis aussi passée par un bootcamp qui s'appelle Le Wagon. Donc ouais, je fais pas les choses dans le bon sens en général, c'est plutôt l'inverse. Mais à ce moment-là, en fait, pareil, j'avais envie de retourner travailler. Je voulais une bonne overview de ce que c'était le web. Et le wagon m'a complètement apporté ça. Et suite à ça, je suis revenue en tant que freelance, directement. Ouais, c'est ça. Je me suis lancée dans le grand bain. Allez, c'est parti. Je monte ma petite boîte et je vends mes services. Ça a fonctionné, ça a très bien fonctionné pendant un petit moment. J'ai appris énormément de choses. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de notamment gérer des équipes dans des startups en tant que CTO assistante. Et pareil, ça a été extrêmement formateur et je suis super contente d'avoir vécu cette expérience-là.
Ok, top, effectivement, il y a pas mal d'expérience. Et est-ce que tu peux nous revenir un peu sur ce lancement, cette partie de lancement en freelance, donc entre le moment où tu as été encadré, on va dire, parce que bah, c'est vrai que même enfin, à 42, même si on n'est pas, y a pas beaucoup d'encadrement, tu es quand même dans un cadre où tu sais que tu as tes objectifs, etc., etc. Pareil pour le wagon, je pense. Comment s'est passée cette transition entre je suis encadré, je sais ce que je dois faire de mes journées, à ok, je me lance dans le grand bain, je crée ma société. Comment est-ce qu'on crée une société? Enfin, je suppose que y a eu plein de questions qui se sont présentées à toi. Comment t'as vécu ce lancement, on va dire, dans le grand bain, dans le vide?
Je l'ai bien vécu parce que je suis le genre de personne qui aime bien créer du gros mouvement autour de moi pour que ça ait des grosses retombées. C'est vraiment un peu, tu sais, le coup de pied dans la fourmilière pour dire ok, c'est parti quoi. Donc c'était un peu flippant quand même, je vais absolument pas mentir là-dessus. T'as toujours le côté est-ce que je vais trouver des clients, comment ça va se passer. Quand tu commences à travailler pour les premiers clients, c'est ce qu'ils vont vraiment me payer à la fin. Ce genre de choses. Mais je pense que là où j'ai eu de la chance, c'est déjà de par mon passage à 42 et au wagon, en fait, ça m'a déjà aussi donné deux réseaux dans lesquels j'étais assez bien intégrée. Et c'est vrai que j'ai oublié de te préciser, mais entre-temps, j'avais fait aussi une petite formation avec Lion, qui était du coup l'école de The Family pour les futurs employés de start-up. J'avais fait la track technique à l'époque. Et donc, pareil, c'était un troisième réseau où je pouvais aller proposer mes services. Et de fait, mon premier contrat, on va dire, s'est fait avec des anciens du wagon.
Ok. Et justement, pour quelqu'un qui veut se lancer, est-ce que c'est quelque chose, avec le recul, c'est quelque chose que tu conseillerais forcément, ou pour toi, on n'est pas forcément obligé de passer par ce type d'organisme qui offre à la fois une formation, mais également un réseau?
Alors non, c'est absolument pas une obligation de passer par ce genre de choses. Par contre, je pense que dans tous les cas, quand on se lance en tant que freelance notamment et que, entre guillemets, on est personne, personne nous connaît, personne sait ce qu'on fait, personne sait ce qu'on vaut, on n'a pas eu l'occasion de prouver techniquement aussi et d'avoir des anciennes réalisations à montrer, je pense quand même qu'à ce moment-là, le réseau est très important. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par des formations difficiles d'accès ou payantes, parce que des réseaux de freelance, il y en a partout, que ce soit même sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Et je parle pas, là, à ce moment-là, je parle pas des plateformes qui vont chercher à référencer les freelances pour les proposer à leurs clients, même si ça reste une alternative qui est aussi sympa si on n'a pas trop envie d'aller chercher les gens. Mais tout simplement, oui, juste des réseaux de personnes qui peuvent... qui sont déjà passés par là, qui peuvent vous donner des conseils. Là, tu parlais de la facturation, je crois, tout à l'heure. Et moi, clairement, j'ai utilisé un template de facture que quelqu'un m'a filé et que j'ai refilé à plein de potes. C'est...
Ok, top. Et justement, pour toi, quelles ont été les qualités qui ont fait, d'une part, que tu as réussi à te lancer, mais d'autre part, que tu as aussi fait la différence? Parce que, bon, c'est vrai qu'on entend partout dire qu'il y a beaucoup de demandes dans ce secteur-là et que, sans aller forcément jusqu'à dire qu'on a juste à claquer des doigts, mais on peut relativement facilement trouver des missions. Mais quand même, qu'est-ce qui, selon toi, a fait que tu as trouvé tes premiers clients? Enfin, tes compétences, en tout cas, quelles sont les compétences qui, selon toi, ont été un facteur de choix pour tes premiers clients?
Je pense que j'ai pas peur d'apprendre, que je sais que j'apprends vite et qu'à partir de ce moment-là, je suis très ouverte au challenge et que le challenge me fait pas peur, je réagis bien sous la pression. Donc je pense que ça a beaucoup aidé. Tu sais, c'est pas vraiment de l'assurance en tant que telle, mais... c'est pas de l'assurance comme de l'arrogance, mais c'est vraiment genre je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux donner et je sais aussi ce que je ne peux pas faire et que je ne peux pas donner. Et à partir du moment où ça c'est clair, je pense que c'est très rassurant pour quelqu'un qui a envie de travailler avec vous, que vous sachiez aussi dire non ou ça je, dans ce délai-là, c'est pas possible.
Ouais, tout à fait. Ok, et justement en parlant d'assurance, bon, on va pas se le cacher, hein, statistiquement, il y a eu beaucoup moins de femmes sur le podcast que d'hommes, et du coup, je me pose la question, est-ce que tu as eu des difficultés par rapport à ça? Est-ce que des fois tu t'es senti moins légitime? Alors, je connais pas spécialement la formation au wagon, mais d'après ce qu'on voit sur internet, je me doute qu'à 42 et au wagon, il y a quand même une majorité d'hommes. Est-ce que du coup, dans cet environnement-là, est-ce que justement tu t'es senti très à l'aise ou au contraire tu as eu quelques difficultés ou même par rapport à tes clients? Des moments, des expériences qui ont fait que tu t'es senti moins à l'aise parce qu'on t'a peut-être moins prise au sérieux.
Alors honnêtement, c'est encore le cas parce que je fais jeune. mais oui, complètement. De toute façon, dès l'école, tu sais, la piscine, c'est très très dur et il faut vraiment tenir et aller jusqu'au bout. Et les premières réflexions qu'on m'a faites... quand j'ai eu ma piscine et donc j'ai su que j'allais rentrer à 42, c'est mais de toute façon c'est parce que tu es une meuf que tu l'as eu. Donc ouais, il y avait vraiment ça, je veux dire 42 a effectivement une politique d'essayer d'inclure plus de femmes dans la tech, mais pour en avoir parlé avec eux, parce que vraiment ça m'avait quand même pas mal trigger très clairement, et donc je suis allée à l'équivalent de la vie scolaire on va dire là-bas, et donc puisque les critères de sélection de la piscine sont assez flous, en plus de ça, on ne peut pas vraiment s'appuyer sur des choses très claires. Et donc, j'en avais parlé avec eux et ils m'avaient rassurée là-dessus. Mais c'est un point où même moi, je pensais que j'avais été prise parce que j'étais une fille. Alors qu'en fait, non. Je veux dire, j'ai été prise parce que j'ai montré une vraie progression, une vraie résilience, une vraie capacité à adapter mon temps de travail, même face à la montée en charge. Mais ça, je peux le dire aujourd'hui sereinement, ce n'était pas le cas en 2015.
Ouais, tout à fait.
Et un autre truc aussi, je pense que j'ai jamais formulé tel quel et j'aimerais bien écrire un article peut-être sur le sujet un jour, mais ma toute première conférence que j'ai donnée, il y avait un souci technique un peu plus simple qui est que je devais envoyer des gigas de data sur GitHub et l'endroit où on donnait la conf était une vraie cage de Faraday. Et donc du coup, en fait, j'ai complètement, quand je me suis rendu compte que ça ne fonctionnerait pas quoi qu'il en soit, puisque le débit, hop, il était vraiment horrible. En fait, je suis partie sur improviser quelque chose d'autre, sur un autre sujet technique que je connaissais et qui ne nécessitait du coup pas forcément Internet. Et la première réflexion qu'on m'a faite en sortant de la conférence, pareil, c'est un monsieur qui est venu me voir et qui m'a expliqué très calmement que cette commande-là, en fait, je l'avais mal tapée et que c'est pour ça que ma démo n'avait pas fonctionné. Et pareil, le jour où j'ai écrit mon tout premier article, le truc doit encore être sur Twitter, donc c'était un article sur Git, une commande Git, je crois. Et donc je poste sur Twitter que je viens d'écrire un article, que je suis contente, c'est mon premier article tech. Et le premier commentaire, c'est « Ouais, mais moi, j'aurais pas fait ça comme ça » d'un gars que je n'ai jamais vu et ni revu. Et voilà, ça a été la première réaction. Donc je suis hyper D'accord. contente que la plupart des réactions ensuite aient été positives et encourageantes. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que du coup j'ai fait une avancée, le premier truc que je me suis pris dans la tronche, c'était qu'on me renvoyait que j'étais pas légitime en fait.
D'accord. Mais ça, est-ce que tu penses que c'est parce que t'es une femme ? Parce que c'est vrai que moi, je le vois aussi quand on essaye de créer quelque chose de relativement nouveau ou de faire quelque chose de différent, surtout à partir du moment où ça passe par Internet, bah forcément, on se prend des remarques et des fois, effectivement, comme tu le disais, c'est des remarques qui peuvent être négative certes, mais bienveillante, dans le sens où on t'explique, bah voilà, moi j'aurais fait comme ça, pas comme ça. Et en fait, est-ce que, avec le recul maintenant, tu vois ça de manière négative ou au contraire, tu te dis pas, ah, mais peut-être que ça partait d'un bon sentiment, d'une bonne intention, de justement t'expliquer, bah voilà, moi comment j'aurais fait, et toujours dans une optique d'amélioration.
Alors, si c'était effectivement, comme tu le dis, bienveillant avec une optique d'amélioration, j'aurais pas placé ça ici. Là, maintenant, le curseur, c'est juste que je me suis pris des taquets dans la tronche qui disait non, en fait. Et il n'y avait vraiment pas de tiens, regarde, viens, je vais t'expliquer. Parce que je veux dire, le mansplaining, c'est un autre problème, mais moi, j'ai pas tendance à penser que quand on veut m'expliquer quelque chose, on me mansplaine. J'aurais vraiment tendance à penser qu'on veut vraiment m'expliquer quelque chose et du coup, je prends. Donc ouais, non, pour le coup, s'il y avait eu cet aspect-là, et il y a plein d'autres fois où ça arrivait et où il y a eu cet aspect-là, effectivement, j'aurais pas mis ça sur le compte du sexisme, en fait. Mais là, pour le coup, je pense que oui.
Et du coup, est-ce que t'as pris ça, justement, comme une force en essayant, où tu t'es dit, bah justement, je veux faire changer ça, ou le fait d'entreprendre et d'arriver dans la tech, c'est 100% un choix personnel?
Oui, je pense que oui dans tous les cas parce que j'ai un peu cette mentalité de dire ok, en fait tu m'enfonceras pas et je vais juste monter encore plus haut. Donc oui, après je pense que la façon dont ça s'est traduit justement, ça a été par mon implication dans différentes associations qui promeuvent justement, on va dire, l'égalité ou la parité dans la tech, la mise D'accord. en avant des femmes aussi. Mais pour le coup, voilà, j'ai cet aspect en mode ok, rise up, mais je suis pas dans le combat, tu sais. Je pense qu'il faut plutôt aller chercher des solutions.
Ouais, tout à fait. Et je pense que ce serait intéressant aussi de creuser. En fait, là, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que tu venais à l'époque d'une formation qui n'avait rien à voir avec la programmation. Enfin, je veux dire, quand tu as découvert 42, tu sortais pas spécialement d'une étude qui t'avait formé au monde de la tech et encore moins à la programmation. Et est-ce que justement, il n'y aurait pas aussi un peu de ça ? C'est-à-dire que effectivement, des gens qui font 42, des gens qui font telle ou telle formation et qui se disent peut-être, bah, moi je sors de telle école, j'ai fait de la programmation, ou alors moi je suis passionné d'informatique depuis que je suis tout petit. Est-ce que justement, tu penses que ce truc-là, ça a joué aussi dans cet aspect un peu concurrence et manque de légitimité, enfin en tout cas, qu'on te sente moins légitime que d'autres personnes.
Je pense que ça peut jouer parce qu'effectivement, t'as cette espèce de mythe du... Enfin, qui n'est d'ailleurs pas toujours un mythe du gars qui a commencé à qui son papa a mis un petit ordi dans les mains quand il avait 9 ans, il a codé son premier site visité par des millions de personnes à 11 ans et qui deviendra DSI à 23, tu vois. Et Fondamentalement, oui, il y a des personnes qui sont comme ça et qui d'ailleurs sont très sympas en plus de ça. Mais oui, je pense que ça a joué un peu aussi puisque bah, t'es une femme, tu fais très jeune, tu viens d'un milieu entre guillemets qui est très féminin, à savoir le commerce. Ouais, clairement, je pense que ça n'aide pas. Après, je pense que justement, ce dont il faut se rendre compte aujourd'hui aussi, c'est que la demande de développeurs, elle est énorme. Et en fait, il y a plein d'autres corps de métier qui sont tout simplement en train de mourir. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se reconvertissent, que ce soit des hommes ou des femmes, qu'ils soient jeunes ou pas. Et je pense que oui, pareil, ça c'est un des sujets sur lesquels il faut faire évoluer les mentalités, puisque ne serait-ce que juste pour pouvoir répondre à la demande et aux besoins de développeurs et de développeuses aujourd'hui, en fait, il faut aller chercher ailleurs.
Ouais, tout à fait. Et justement, tu parles de reconversion. Donc toi, tu as eu une formation un peu de commercial et également une formation technique de programmation. Est-ce que tu vois ça à l'heure actuelle, dans ton job actuel, et d'ailleurs, on reparlera un peu plus en détail de ton job actuel après, mais est-ce que tu vois ça comme une reconversion ou plutôt comme le fait d'ajouter une nouvelle corde à ton arc? Parce que c'est vrai que d'après ce que tu nous as décrit en introduction, par rapport à ton quotidien, ton métier aujourd'hui, disons que on voit plutôt ça, enfin moi personnellement, je vois plutôt ça comme deux compétences qui vont ensemble plutôt qu'une reconversion, tu vois. C'est quoi ton avis par rapport à ces deux compétences qui peuvent sembler différentes, mais qui peut-être, et dis-moi si je me trompe, au final te servent toutes les deux aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai un regard plus serein sur la question. Quand j'ai quitté le commerce, j'étais dégoûtée du milieu. J'étais vraiment dégoûtée du milieu. Je comprenais pas, enfin tu sais, genre... C'est toujours compliqué, le capitalisme c'est bien jusqu'à un certain point et quand tu te rends compte que t'es en train de devenir juste un rouage de la machine, moi perso j'ai pris mes écrous et je me suis barrée quoi. donc au départ j'étais vraiment, je voulais absolument pas associer ça, donc associer on va dire des techniques de vente, ce genre de choses à mon boulot. Aujourd'hui, je pense que je le fais pas particulièrement non plus, mais je suis quand même contente d'avoir appris certaines choses que j'ai apprises, puisque du coup, ça m'aide à aussi, on va dire, proposer un bon contenu. Je veux dire, fondamentalement, que je sois d'accord ou pas avec le commerce et les techniques commerciales, il y a un moment où il y a des choses qui fonctionnent et qui sont pertinentes. Je veux dire, qui sont pas juste là uniquement pour, on va dire, arnaquer les gens ou ce genre de choses. Le fait de savoir comment présenter un produit, en fait, techniquement, ça me sert, puisque si je sais te présenter le produit et qu'il répond à ton besoin, mais pourquoi je te le présenterais pas à ce moment-là en fait? Mais c'est vrai qu'au début j'avais beaucoup 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 de mal avec cet aspect-là, justement parce que j'avais un peu trop l'image des vendeurs de tapis en tête, on va dire.
Ok, et du coup c'est peut-être pour ça que pendant plusieurs années tu t'es éloigné de ce milieu du commerce et que tu t'es vraiment focus sur l'aspect technique et programmation, surtout durant les années durant lesquelles tu as été indépendant, c'est ça?
Ouais, complètement. Okay. Et après, ce qui m'a redirigé vers du coup des postes de développeur relations, donc développeur advocate, développeur évangéliste, ça a été vraiment l'aspect contact humain, qui aussi à la base m'avait drivé dans le commerce, puisqu'on est face aux gens aussi. Donc il y a quand même des recoupements.
Ok. Et du coup, à quel moment justement s'est fait ce changement entre ton envie d'indépendance, qui est peut-être toujours là aujourd'hui, mais entre le moment où tu bossais à ton compte et le moment où tu as intégré une boîte? À quel moment ça s'est fait et quels ont été et pourquoi ça s'est fait en fait?
Alors ça, assez bizarrement, ça s'est fait super tôt, c'est-à-dire pendant ma formation au wagon. Donc je savais en entrant au wagon que c'était dans le but d'être freelance derrière. Mais en fait, pendant ma formation, j'ai eu un professeur du coup là-bas qui avait fait des boulots de DevRel et qui m'a fait découvrir en fait ce corps de métier. Puisque à l'époque où j'étais à 42, jamais j'en ai entendu parler. Et en réalité, j'en ai entendu parler assez peu les années suivantes aussi. Et donc c'est vrai que dès le départ, en tant que freelance, et je pense que c'est ça aussi qui a contribué à ma réussite en tant que freelance, c'est que j'ai été parler dans les meet-up de mon expérience, au début à 42, puisque c'était quelque chose qui intéressait beaucoup, puis de mon expérience de freelance, puis de mon expérience de management d'équipe, enfin toutes ces choses bout à bout, Mais à l'époque, je voulais encore rester dans le technique parce que je me sentais pas, moi, légitime justement d'aller vers ces postes-là où justement on est un peu. Où on préconise des choses et on dit aux gens, tu sais, techniquement, tu devrais faire ça. Même si on le dit pas comme ça, je veux dire, dans un article, c'est ce qu'on écrit, au fond.
Ouais.
Et du coup, voilà, je pense que. Ouais, je l'ai su dès le début, mais que c'était très important pour moi de rester dans la tech pure pendant quand même quelques années. Histoire d'avoir assez d'expérience, de recul. Et c'est là que je reviens sur le fait que je suis hyper reconnaissante d'avoir été CTO assistante parce que c'est un poste qui m'a permis de voir mais tellement de choses que je ne voyais pas forcément sur une place de développeuse, en fait, tout simplement. Sur comment on fait vivre un produit, on crée ce genre de choses.
D'accord, ouais, ok. Et en fait, c'est vachement intéressant ce que tu me dis parce que tu nous dis que tu es allé vers les gens, que tu as eu des facilités à communiquer avec les gens. Et au final, là où tu en es aujourd'hui, c'est aussi par rapport. J'allais dire, c'est aussi grâce à ton expérience dans le commerce parce que, bon, bah, je suppose que voilà, là, il faut savoir présenter un produit, mais c'est aussi savoir se présenter, savoir raconter une histoire. Et donc, justement, toutes ces compétences. Qui au début t'ont un peu dégoûté, enfin que tu voulais mettre de côté, au final c'est des compétences qui t'ont permises, même si ça n'a rien à voir avec la programmation à première vue, des compétences qui t'ont permises de te lancer en freelance et d'arriver là où t'es aujourd'hui, quoi.
Ouais, complètement. Je pense que effectivement me pitcher moi-même c'est quand même plus simple avec l'expérience que j'avais.
Ok. Top. Et du coup, quels sont aujourd'hui tes projets, on va dire ? Est-ce que tu as des projets d'évolution de carrière ou même de changement de carrière ? Enfin, c'est quoi tes objectifs, on va dire, à moyen, long terme aujourd'hui ?
Ouais. Je suis encore en pleine hésitation. Il y a pas mal de domaines, on va dire, qui m'attirent un peu. Il y a le côté éducation, donc aller peut-être plus, qui fait déjà un peu partie de mon boulot, tu vois, aujourd'hui, mais peut-être aller plus focus là-dessus, donc vraiment donner des cours, ce genre de choses, créer des formations éventuellement. Et après, sinon, il y a une part de moi qui se dit, un jour tu finiras par monter ta boîte, tu redeviendras digital nomade, et tu prendras un petit van et tu parcourras l'Asie avec ton laptop.
Trop bien. Top. Et du coup, est-ce que justement le fait de bosser dans une boîte aujourd'hui, est-ce que ça te frustre un peu dans un sens ou au contraire, est-ce que, enfin, quelles sont les choses qui sont mises en place dans ta boîte aujourd'hui et qui te permettent, dans un certain sens, de satisfaire justement ton envie de liberté ? Tu nous parlais d'envie de créer des formations. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses qui te permettent dans ta boîte aujourd'hui de faire un peu la transition, alors enfin pas la transition, mais de faire un petit mix entre cette vie qu'on pourrait croire bien rangée, bien encadrée, de moins l'encadrer et de te donner justement plus de liberté.
Je suis complètement responsable de mon temps. J'ai pas quelqu'un qui m'attend à 9h ou à 10h dans un Zoom call. Et il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvée avec justement des amis de 42 et on s'est tous retrouvés à télétravailler pendant la journée. Et ça m'a pas mal fait bizarre en fait de voir que à 9h30 le matin, ils avaient un check-in call avec toute leur team pour s'assurer qu'ils travaillaient bien. Il y en a certains qui doivent rester en mute sur des calls toute la journée pour. Enfin, tu vois, je trouve ça complètement aberrant, quoi. Moi, on me.
Ouais.
Je veux dire, entre guillemets, je me lève à l'heure que je veux, tant que je fais ce que je veux. Enfin, tant que je fais ce que je dois faire et ce qui est important que je fasse dans ma journée. Et d'ailleurs, pareil, j'ai pas particulièrement de liste des tâches. C'est moi qui vois là où c'est intéressant d'aller faire des choses, là où c'est intéressant d'aller parler, là où c'est intéressant de sponsoriser un événement. Et je m'assure qu'on ait les bonnes ressources et on y va, quoi. Donc non, le côté liberté, moi, je le trouve complètement. En plus de ça, c'est vrai que... tu sais, tout à l'heure, je te parlais un peu d'Asie et j'adore voyager. Fondamentalement, je suis au bon poste aussi pour aller rencontrer des gens et voyager aussi d'une certaine façon. Même si tu fais pas du tourisme, hein, quand tu vas en conférence, là, par contre, je me lève pas à l'heure que je veux. À 8h, mon bus, il est monté. Je suis là devant et je t'attends avec le grand sourire et le café, quoi. Donc... C'est. Ouais, mais c'est un autre rythme. J'aime bien justement le fait qu'il y ait ces deux rythmes aussi qui se mélangent. Et après, l'un des gros avantages que j'ai à bosser en équipe comparé à bosser en freelance, c'est que les gens avec qui je bosse sont très compétents, sont géniaux, j'apprends de tous les jours. Et ça, je pense, enfin, c'est pas quelque chose que t'as quand tu bosses majoritairement seul, en fait.
Ouais, ok. Et est-ce que justement tu penses que toutes ces libertés, comment tu vois ça par rapport à tes relations? Enfin, tu me disais tout à l'heure que t'as encore quelques contacts avec des gens que t'as connus à 42 ou même par rapport à tes collègues au sein de la boîte. Comment tu vois ton poste? Est-ce que t'as l'impression que c'est quand même un poste privilégié? Alors, même si, et tu nous diras après justement si c'est quelque chose que t'as dû mériter, peut-être que voilà, dans un premier temps, t'as dû gravir des échelons entre guillemets dans la boîte, ou c'est quelque chose que vraiment tout le monde peut acquérir, et c'est plus en fait non pas une question de mérite ou de temps passé dans une boîte, mais plutôt une question de caractère, c'est-à-dire que bah, la boîte qui va t'embaucher va voir que toi, t'es plutôt de ce caractère-là, donc à bosser de telle ou telle manière, plutôt que quelqu'un d'autre qui aura besoin, au contraire, d'encadrement. Enfin, comment tu vois cette liberté?
D'accord. Ouais, je pense que mes précédentes expériences de freelance, principalement en remote, font qu'effectivement c'est plus simple de me faire confiance sur la gestion de mon temps. Complètement.
Ok. Et donc effectivement, par rapport à la boîte, tu vois aussi des profils qui sont qui ont besoin de plus d'encadrement.
Sur mon poste en général, non.
D'accord.
C'est vraiment. Enfin, moi je suis pas entre guillemets au niveau junior, donc je pense, je me rends pas bien compte peut-être en ce sens que avant dans ma boîte précédente, on était une équipe de deux, mon manager et moi, et donc forcément, quand on est deux, il y a pas mal de taf à abattre et de responsabilités à prendre. Donc c'est des choses que j'ai prises dès le début en fait, et que là aujourd'hui je suis contente d'apporter à Twilio. Mais ouais, effectivement, je suis pas certaine. Mais je pense que ça s'acquiert. Je me rappelle d'une conférence où il y avait une femme qui du coup donnait sa première conférence et qui a été coachée par une personne que j'aime énormément, qui fait notre métier aussi aux States. Et sa première conférence, elle était impeccable. Franchement, il n'y avait rien à redire et limite, j'aimerais bien en donner des comme ça aujourd'hui, quoi. Vraiment, elle était super, super, super. Et donc du coup, et je pense que c'est des choses qui peuvent s'apprendre. Après, il faut quand même avoir une appétence pour ce genre de mission dans tous les cas.
Ouais, tout à fait. Ok. Et est-ce que justement le fait de travailler comme ça pour quelqu'un, est-ce que ça te... Enfin, tu nous parlais par exemple de tes projets, de voyager en van en Asie. Est-ce que justement le fait de t'engager dans un sens, parce que c'est vrai que même si voilà, il peut y avoir certaines parties du contrat qui disent que tu peux partir à plus ou moins à tout moment, au final, c'est vrai que tu as quand même une certaine... t'es redevable de ta boîte, enfin tu leur dois quelque chose. Est-ce que justement t'as pas l'impression d'être entre guillemets, alors j'allais dire emprisonné, c'est quand même un très gros terme, mais d'être un peu contraint parce que bah, la boîte, effectivement, tu deviens un élément de plus en plus important pour la boîte. Est-ce que justement ça te fait pas peur tout ça?
Je pense que j'ai une chance incroyable d'être entourée de gens, mais je pense que dans tous les cas, dans la plupart des métiers de la DevRel, c'est des questions qu'on se pose beaucoup, beaucoup, parce qu'en fait, il y avait eu une vague énorme de burn-out il y a 5-6 ans, et du coup, parce qu'en fait, genre, les gens embauchaient des DevRel, ils les envoyaient partout, partout, et en fait, en 6 mois, 9 mois, 1 an, les gens étaient cramés, ils faisaient un burn-out de l'enfer, et limite, ils quittaient la tech. Donc, je pense que j'ai un peu la chance que d'autres soient passés par là et donc l'écosystème est très bon à ce niveau-là aujourd'hui et que c'est quelque chose auquel on fait attention. Enfin, il y a quelques temps, mon N plus X, je ne sais même pas, nous a tous pris et nous a dit, mais si vous ne vous sentez pas à l'aise aujourd'hui pour prendre 3 semaines de congé d'affilée, c'est qu'il y a un problème, discutez-en avec votre manager. Donc voilà, je pense
Ok.
que j'ai une chance incroyable, vraiment.
Ouais, bah oui.
Ouais, mais après en contrepartie, oui. Je veux dire, à l'époque où j'étais freelance, là je veux dire, je dois quand même demander mes congés, même si je sais qu'ils me seront validés derrière. Et puis j'en ai un certain nombre. Quand j'étais freelance, si je voulais juste ne pas travailler pendant 4 mois pour aller je ne sais où, je le faisais. Et je demandais rien à personne, je prenais juste pas de contrat.
Ouais, tout à fait.
Ouais,
Ok.
donc il y a quand même, ouais, un petit trade-off.
Ouais, bah oui, bien sûr. Et est-ce que tu as eu une expérience qui a été assez marquante et durant laquelle tu t'es beaucoup remise en question? Alors que ce soit durant ta période de freelance ou aujourd'hui, enfin peu importe, mais depuis ce moment où tu es dans le monde de la tech, est-ce qu'il y a eu voilà une expérience ou un moment de ta vie où tu as remis pas mal de choses en question et tu t'es dit bah peut-être que ce métier ou alors le métier dans lequel je suis actuellement n'est pas fait pour moi?
Non, je pense pas. Je pense que ce qui m'a fait le plus réfléchir et prendre du recul, c'est qu'à un moment, en fait, du coup, à l'époque où j'étais CTO assistant, je me suis retrouvée à manager quelqu'un qui était en classe avec moi. Donc techniquement, on avait le même niveau. Et enfin, je veux dire, techniquement, genre dans l'idée, tu vois, on sortait de la même promo, on était amis en plus de ça en dehors. Et ça m'a vraiment fait pas mal réfléchir à justement qu'est-ce que c'est. La gestion d'équipe, où est-ce que se place la limite entre le pro et le perso, ce genre de choses. Et ça aussi, pareil, c'est pas mal important quand c'est une femme, parce que je sais que, par exemple, sur mon ancien boulot, mon manager était un ami en off, tu vois, avant, et il y a eu pas mal de, on va dire, pseudo-rumeurs que je couchais avec lui, en fait, tout simplement, tu vois, et c'est trop naze. C'est vraiment trop naze. Donc,
Ouais, tout à fait.
ouais, je pense que ces expériences-là m'ont fait un peu réfléchir à justement où placer la limite du pro, du perso, du public, du privé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, je suis presque même contente d'avoir jamais rencontré aucun de mes collègues en vrai, tu vois, parce que moi, je suis certaine qu'il n'y aura pas ce genre d'assertion sur moi.
D'accord. Et ok. Et justement, j'allais te demander, est-ce que pour toi, c'est le genre de rumeur ou en tout cas de mentalité qu'on peut facilement éviter en allant dans certains types de boîtes? Enfin voilà, de plus en plus les boîtes ou les associations ou même les organismes de formation partagent et basent même leur communication sur leurs valeurs. Est-ce que pour toi, c'est le genre de mentalité qu'on peut éviter en allant chercher certains organismes ou certaines boîtes, ou est-ce que au contraire, bah, tu penses que le fait d'être un peu plus sereine en ce moment par rapport à ça, c'est dû au fait que bah, la période actuelle qui fait qu'on se rencontre un peu moins, que on télétravaille beaucoup plus?
Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que dans tous les cas, en fait, le fait d'aller travailler dans une boîte qui a ce genre de, on va dire, d'engagement, à faire en sorte qu'il y ait telle ou telle culture d'entreprise, dans tous les cas, ça peut que améliorer les conditions de travail et ça va éviter ce genre de problème en interne. Mais après, moi, dans tous les cas, qui suis dans un boulot où je m'expose, tu peux pas empêcher les externes et tu peux pas contrôler ce que les gens pensent, disent ou décident de croire de toi.
Top. Bah écoute, je pense que c'est. On a déjà une bonne vision de ce que tu fais aujourd'hui, de tes valeurs surtout et de comment t'en es arrivé là. Moi, ce que j'aime bien aussi demander à mes invités, c'est est-ce que il y a une ressource que tu aimerais partager aux auditeurs? Alors, ce que j'entends par ressource, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être un livre, un site web, même pourquoi pas un bootcamp. Hein. On parlait tout à l'heure de certains organismes de formation. Un film, un podcast, enfin peu importe, mais quelque chose qui t'a vraiment inspiré et peut-être même qui t'a aidé à un moment, soit à te lancer, soit à éteindre quelques doutes que tu avais durant ta carrière et que tu aimerais du coup partager aux auditeurs.
Il y en a deux, j'ai le droit.
Oui, bien sûr. Avec plaisir.
Super. Du coup, c'est des trucs en lien avec les femmes dans la tech. Du coup, il y a le site des Duchesses. Donc, je vais te retrouver l'URL exacte. Mais en tout cas, juste taper Duchesses sans le E final, ça fonctionne très bien. Ouais, c'est ça. www.duche2s-du6. France.org. Donc ça c'est le site des Duchesses et c'est une association du coup dans laquelle je participe et qui m'a aidée en fait à l'époque où j'étais pas au board et qui aujourd'hui j'ai envie de rendre. Mais c'est vraiment si vous avez envie de vous lancer dans le public speaking, si vous avez envie d'écrire votre premier article, si vous avez envie de conseils carrière, si vous avez envie de quoi que ce soit lié à ça. Et en plus de ça, c'est une asso qui est aussi ouverte aux hommes, donc c'est hyper inclusif.
Ok.
Ouais, complètement. Oui, on peut complètement être duchesse et être un homme. D'ailleurs, moi, c'est un homme et une femme qui m'ont recruté en même temps, entre guillemets, sur une conférence. Donc voilà, je trouve que la communauté est très bienveillante. hyper aidante et vraiment j'adore. Et la deuxième chose peut-être, ce serait le blog de Ada Tech School, qui est une école un peu innovante, pareil, qui est ouverte aux hommes et aux femmes et aux personnes s'identifiant au-delà de ces deux grands genres, on va dire. Et pareil, sur leur blog, dans leur page valeurs, qui sommes-nous, ce genre de choses, ils partagent énormément d'infos intéressantes et surtout des solutions sur comment on change en fait. Pour moi, genre Ada Tech School, ils font complètement partie de la solution. Et ils sont pas là à marteler le problème. Du coup, voilà.
Ok. Et justement, est-ce que tout ça, de toute façon, donc je mettrai les liens de ces deux ressources dans les notes de l'épisode. Et par rapport à cet aspect, écrire des articles, un blog, tout ça. Enfin voilà, tout à l'heure tu m'as parlé de lancer ton premier blog. Est-ce que c'est quelque chose qui est au stade de projet aujourd'hui, ou tu as déjà des brèches d'articles, on va dire? Enfin, est-ce qu'on peut retrouver du contenu que tu publies quelque part sur Internet?
Ouais, complètement. Et c'est super marrant. Je pense que mon premier article, j'ai publié fin 2018. J'ai pas mal écrit depuis. Là, à l'heure actuelle, j'essaye d'écrire au minimum un article technique par mois. Et ce qui est super drôle, en fait, c'est que les articles, ils vivent après toi. C'est vraiment, on m'a contacté il y a 2 semaines, je crois, par rapport à un article que j'avais écrit tout début 2019 et où la personne avait mal compris quelque chose. Et donc, du coup, je l'ai aidé à débug son code. Et c'était trop cool, quoi. De voir qu'il y a vraiment des gens qui s'en servent et que c'est pas juste des phrases écrites sur Internet en Markdown.
Ouais, bah oui, tout à fait. Et donc, tout ça, on peut le retrouver où ?
Du coup, il y a une partie de ce que j'ai écrit qui est sur le blog de Clever Cloud. Et là, tu as une partie sur le blog Twilio. Donc, twilio.blog.com. Et si tu veux retrouver tous les articles en français, c'est /tag/french. Dans tous les cas, on s'enverra les liens.
D'accord. Ouais.
Mais du coup, si vous tapez, je pense, Valériane dans le moteur de recherche du blog Twilio, vous tomberez sur tous mes articles récents.
Ok, super, c'est génial. De toute façon, hein, je partagerai tous ces liens dans la description du podcast, comme ça les gens pourront aller voir ça très facilement. En tout cas, merci à toi Valériane d'avoir partagé ton expérience, d'avoir partagé tes valeurs et surtout de nous avoir un peu inspiré, parce que dans un sens, vu ton profil qui est un peu atypique, je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser. C'est aussi une source d'inspiration pour nous, aussi bien hommes que femmes, qui sommes dans une certaine situation aujourd'hui et puis qui ont envie soit de se réorienter, soit de faire évoluer leur carrière.
Écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup à nouveau de m'avoir aujourd'hui dans ce podcast. Et avec grand plaisir, du coup, j'espère que ça fera du bien aux auditeurs et auditrices.
Merci à toi. À bientôt.
À bientôt.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement ou même à partager l'épisode à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.